Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, il est 19h et vous êtes sur la radio Syllab. Et on vous propose tout de suite d'embarquer avec nous pendant une heure sur J'irai cracher sur vos ondes. Avec moi en studio ce soir, Eva. Bonjour Eva.
Bonjour, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va super.
Et à la technique, on a Cesse. Salut Cesse.
Hello !
Alors ce soir, on vous a préparé une émission dans la même veine que celle d'il y a deux semaines, une émission spéciale sur l'engagement en littérature et les réflexions qu'on peut y apporter. Eva, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir ?
Alors moi je vais vous parler d'un écrit très court qui date de 2010, Indignez-vous de Stéphane Hessel.
Alors Cesse, tu nous as aussi préparé quelque chose, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, j'ai récemment posé les yeux sur Tout pour tout le monde, un récit un peu dystopique et un petit peu communiste. Je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'on va beaucoup en entendre parler.
Alors merci à vous. Tout de suite, Eva, on laisse la parole pour ta chronique.
Merci. Quand Cesse m'a proposé de participer à cette émission imprévue sur la littérature engagée et la politique, je ne pouvais décemment pas refuser. M'exprimer par le biais de ces deux médias, la radio et la littérature, est déjà pour moi une forme de résistance et en ces temps troubles, pour ne pas dire nauséabonds, que faire d'autre qu'agir de toutes les façons possibles. Mais une fois cette évidence établie, il y a la réalité d'une thématique mine de rien très vaste et surtout il y a le temps qui nous est compté. Et puis, que choisir ? Moi qui lis essentiellement des romans, que je pourrais considérer pour une grande part politique ou engagée, soit, mais tout de même. Et puis choisir, c'est renoncer. Alors j'ai renoncé. J'ai très peu de temps, cela fait longtemps que je n'ai pas écrit, je n'ai pas forcément le cerveau au meilleur de sa forme. Je me décide donc pour un petit ouvrage, parce que même si choisir, c'est renoncer, renoncer en se trouvant des prétextes pour abandonner, cela ne fait pas partie de mon ADN. Pour une fois, j'essaie d'aller à l'essentiel, comme on dit. Mieux vaut un roman ou une BD ou un essai très court que rien du tout. Je parcours ma bibliothèque et je me dis que, oui, ne serait-ce que pour le titre, ce sera cet ouvrage-là, « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Hessel, immigré, résistant, arrêté et torturé par la Gestapo, déporté, diplomate et écrivain français, est l'auteur de ce très court essai publié en 2010 par le biais d'une petite maison d'édition du sud de la France, Indigène Édition. Indigène sans S, au sens anglo-saxon indigenous, issu de la terre. Davantage un appel qu'un essai d'ailleurs, mais qui va inspirer de nombreux mouvements de révolte ou de contestation, tels que le printemps arabe ou le mouvement des indignés, Los Indignados, en Espagne par exemple. Ce petit ouvrage me semble particulièrement d'actualité aujourd'hui et nous rappelle à quel point rien n'est jamais acquis. En effet, Stéphane Hessel commence son essai en nous rappelant ce qu'a été la création du CNR, Conseil National de la Résistance, en 1945, au programme d'une modernité assez impressionnante. Il y est question d'offrir une sécurité sociale à tous et toutes ou encore de nationaliser toutes les sources d'énergie, fruits du travail commun. Mais aussi les grandes banques, les compagnies d'assurance, afin de créer une véritable démocratie économique et sociale. Il y est question d'une presse indépendante, libre, et d'une véritable instruction pour tous les enfants de France. Sujet ô combien brûlant aujourd'hui. En 2010, c'était déjà tout ce socle de conquête sociale qui était en danger. Alors, aujourd'hui, il me semble essentiel de dire encore et encore à quel point toutes ces améliorations sociales participent de ce monde plus juste que l'on ne cesse de rêver, et qu'Hessel a sans doute rêvé toute sa vie lui aussi. Hessel continue ainsi, et je le cite. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée ? sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Les banques, désormais privatisées, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important. Et la course à l'argent, la compétition, autant encouragée. Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne comme j'ai été indignée par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948, sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Après avoir évoqué le ciment essentiel de la résistance pour lui, l'indignation, Essel poursuit son texte en cherchant les motifs de révolte en ce début de XXIe siècle. Pour rappel, ce petit essai date de 2010. Et il ne manque malheureusement pas. Tour à tour, il évoque le problème grandissant des pauvres qui ne cessent de s'appauvrir et des riches qui sont de plus en plus riches. Il évoque l'absolue nécessité de traiter l'écologie comme un sujet primordial face à une planète en destruction. Il évoque son indignation contre la situation en Palestine et dans la bande de Gaza. Il évoque le problème de la pensée productiviste, entre autres choses. Alors oui, il l'affirme, il faut continuer de s'indigner, de s'engager, de se révolter, d'agir. Mais il termine en insistant sur le fait que cette nouvelle forme d'insurrection doit absolument être pacifique et qu'il faut toujours préférer une espérance à l'utilisation des armes ou de violences quelles qu'elles soient. Voici comment il termine son essai. Comment conclure cet appel à s'indigner ? En rappelant encore que, à l'occasion du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance, nous disions, le 8 mars 2004, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, 1940-1945, que certes, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la Résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu. Et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Non, cette menace n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. À ceux et celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Voilà ce que moi j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Même si bien sûr, à la relecture de cet « Indignez-vous » et à la lecture de commentaires de certains de ses détracteurs, mon regard n'est plus tout à fait le même que celui d'il y a une quinzaine d'années. Oui, on peut trouver que ce petit pamphlet manque parfois d'envergure. Oui, il est sans doute trop généraliste, un peu trop moralisateur parfois, et un peu paternaliste aussi, il faut bien le dire. Oui, il oublie totalement la vision féministe de ce XXIe siècle, autre cheval de bataille essentiel si l'on veut continuer de rêver notre monde plus juste. Mais malgré tout, il reste pour moi une référence importante, un cri de vigilance, mais aussi d'espoir. Et là, ce soir, en ce mercredi 3 juillet 2024, à 19h11, c'est juste cela que je veux garder en tête. Nous avons raison de nous indigner, de nous battre pour nos idées, contre le fascisme qui est à nos portes. Nous avons raison de résister, de créer. Continuez, continuez, continuez. Et puis, oui, il faut se souvenir d'où l'on vient. Alors forcément, j'ai une pensée toute particulière pour mon grand-père espagnol, Teodoro Muñoz, qui s'est battu contre les franquistes espagnols entre 1936 et 1939. Lui aussi était un immigré. Lui aussi fut parqué dans des camps, puis arrêté par les Allemands. Lui aussi a fait de la résistance. Nous sommes tellement nombreuses et nombreux à avoir ce passé familial, ce récit-là. Ne les laissons surtout pas refaire l'histoire.
De Rafael Alberti, voici cette chanson qui doit devenir importante pour nous, parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on a, qu'on porte à l'intérieur. J'entends des voix, je ne sais pas. C'est de Rafael Alberti, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
C'était A Galopar de Paco Ibáñez. Alors, Eva, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le choix de cette musique ?
Oui, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un des hymnes importants qui ont été chantés alors, après la guerre civile, du coup, et pendant le franquisme. Donc, il fallait trouver des chansons avec des métaphores, parce que sinon, ils étaient censurés. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu presque 40 ans de dictature en Espagne. Et puis, dans notre histoire familiale et plus personnelle, c'est un chanteur, Paco Ibáñez, qui a énormément compté et voilà, qui fait partie de mes réconforts.
Merci beaucoup, Eva. Tout de suite, on va écouter la chronique de Cesse.
Alors, il y a quelques semaines de cela, alors qu'on parlait des programmes, des prochaines émissions de J'irai cracher sur vos ondes, parce que on avait un peu envie d'envahir cet espace-là, Cesse m'a fait lire le premier chapitre de « Tout pour tout le monde ». Une histoire orale de la commune de New York, 2052-2072. Et j'ai tout de suite voulu le donner à entendre. Pas chroniquer l'ouvrage, pas lire un extrait par-ci par-là, mais faire une grosse mise en voix. Ce n'est pas le chapitre complet que vous allez entendre ce soir, j'ai opéré quelques coupes pour me recentrer sur les thèmes de l'insurrection et de la création de la commune et donc des communs. Tout pour tout le monde a été écrit par deux autrices, Michelle Esther O'Brien et Emma Abdelhadi. Michelle Esther O'Brien est psychothérapeute, doctoresse en sociologie à l'Université de New York, où elle enseigne les études queer, et on peut aussi noter de son travail passé sa contribution au projet New York Trans Oral History, ainsi qu'à la rédaction de la revue queer communiste Pinko Magazine. Eman Abdelhadi, quant à elle, est une académicienne, une activiste et une artiste basée à Chicago, qui travaille sur les questions de genre, de religion et de migration. Sur Twitter, elle se définit également comme musulmane aux USA. Cela devrait déjà vous donner quelques indices sur l'approche que les autrices ont pu avoir pour concevoir cette histoire orale de la commune de New York. Histoire orale, oui, mais qui dans sa diégèse, même de l'œuvre, a pris la forme d'une version papier raccourcie et excentrique pour cette communauté du futur. L'ouvrage se compose ainsi d'une intro qui va poser le contexte de production de ce projet et d'une douzaine d'entretiens menés par les deux historiennes qui se trouvent par ailleurs avoir les mêmes noms que nos autrices. Ces entretiens sont autant de portraits qui vont dessiner peu à peu les contours de cette commune de New York, parfois très explicitement, parfois en creux. L'histoire, avec un grand H, prend alors forme à travers ces histoires individuelles avec un petit H, où les récits vont se retrouver, les thématiques bouclées, et le tout nous permet de nous immerger dans nombre de problématiques sans avoir l'impression de lire un essai universitaire. Si l'ancrage sur le territoire de New York est présent, la toile des récits s'étend aux divers recoins de l'Amérique du Nord, en Chine, dans les Andes, sans oublier la Palestine. Une véritable histoire mondiale. Le texte ne se veut pas d'un idéalisme naïf, et les autrices ne font pas l'impasse sur la violence à l'origine de ces changements mondiaux, renforçant la crédibilité du récit ainsi proposé. Tout pour tout le monde a été initialement édité par Commons Notions en 2022 et est disponible sur notre territoire grâce à la traduction de Camille Le Boulanger et à la maison d'édition rennaise Argile. C'est là-dessus que va s'arrêter ma présentation du livre, mais attendez quelques mots pour contextualiser l'extrait que vous allez écouter. L'historienne, O'Brien, enregistre son entretien avec Miss Kelly le 4 mai 2067. Elles se sont installées pour cela dans un centre social de Cecilia Gentile, situé à Hunts Point, dans le Bronx. Lieu que Miss Kelly a contribué à fonder il y a 5 ans, et où avec 3 autres permanentes, elles reçoivent des travailleuses du sexe, qu'elles dénomment comme étant les tactiles. Cet accueil donne lieu à des échanges autour de leurs compétences, de leurs pratiques professionnelles, mais aussi des conférences et des temps de convivialité. Michelle Esther O'Brien interroge Kelly sur le rôle qu'elle a joué dans l'histoire du quartier d'Hunt Point.
Pourquoi ce centre se trouve-t-il ici à Hunt Point ?
Ah, c'est un quartier chaud ici, il y a des années, j'y ai travaillé tellement longtemps. Quand je suis arrivée ici en 41 à peu près, c'était très différent d'aujourd'hui. Beaucoup de filles travaillaient tout le long de l'avenue, dans les rues adjacentes. C'était une zone industrielle, des garages, un gros marché aux primeurs, des voies ferrées, et beaucoup d'entrepôts abandonnés. C'était pas une période facile, j'étais toujours défoncée. L'ambiance était de plus en plus tendue à Chelsea, je pouvais plus traîner là-bas. La police essayait de nous chasser, nous ramasser tous les soirs. J'ai été arrêtée plusieurs fois et ils m'ont dit que si je restais là, ils me feraient bien pire.
Comment était la police à cette époque ?
Bien, les flics étaient toujours brutaux. Certains de mes premiers souvenirs de quand j'étais petite, c'était d'entendre parler des révoltes contre les meurtres policiers aux infos. Mais la situation a empiré. La police de New York a pris le contrôle d'une grande partie des trafics de drogue et commençait à prendre le contrôle des travailleuses du sexe de rue aussi. À Chelsea, ça devenait dur. Il y avait ce flic qui me harcelait pour de l'argent tous les soirs et qui me montrait bien que c'était lui qui dirigeait le quartier. J'oublierai jamais son visage. Il se faisait des traces de doigts sous les yeux, vous savez, comme les joueurs de football. Je sais pas, il se faisait tout ça, les flics autour de lui. Bon, les flics, en gros, c'était un gang, mais avec beaucoup de flingues. Je l'ai compris seulement après, mais la police avait changé d'attitude avec les bourges aussi. Ils ont commencé à vouloir être payés pour leur protection. Si on voulait travailler en ville, on devait apprendre les règles. Mais je pense que c'était aussi le signe que tout se cassait la figure à tous les niveaux.
Comment était la vie à Hunts Point ?
Même quand j'étais défoncée, je travaillais dur. Dans la rue, tous les soirs, je n'étais pas très prudente, ou pas assez prudente. Mais j'ai eu de la chance et je m'en suis sortie. C'est bien plus sûr maintenant que c'est nous qui organisons tout. Les filles ont les centres et les communications, et elles sont toujours en contact les unes les autres, et plus personne ne cherche des noises à présent. Mais tellement de filles sont mortes, tellement s'en sont pas sorties. Nous avons monté un projet de mémorial ici l'année dernière. Nous avons rassemblé les histoires de toutes les personnes qui travaillaient dans la rue avant la commune. On a rassemblé toutes les photos, les vidéos, les holos qu'on a pu, les histoires de toutes celles qui s'en sont pas sorties. Un peu comme vous faites là, une histoire orale à écouter autant de gens qu'on pouvait. Ça a fait remonter beaucoup de choses en moi, j'ai beaucoup pleuré. et il y a eu beaucoup d'embrassades. C'est bien pour les filles plus jeunes de savoir, parce qu'elles savent pas. Elles doivent savoir pourquoi on doit défendre la commune à tout prix.
Avez-vous peur que je sois une de ces personnes qui veulent simplement utiliser votre histoire ?
Bien sûr que tu veux utiliser mon histoire, ma chérie. C'est pour ça qu'on a des histoires, pour les utiliser. La question, c'est pourquoi faire ? Et je te connais pas vraiment.
Je comprends. Est-ce que vous voulez continuer cet entretien ?
Je veux bien essayer. Ta mâchoire ressemble un peu à la mienne, t'as l'air ok.
J'apprécie votre confiance. Comment étiez-vous dans les années 40 ?
J'étais tellement belle. J'avais eu pas mal d'opérations, mais j'étais splendide, tellement belle. Je participais au bal et je gagnais toujours dans la catégorie visage. J'étais une merveille. J'avais une haute opinion de moi-même à l'époque, même quand j'étais déchirée à la coque ou à la tina. Je pense que d'une certaine manière, avoir la grosse tête, ça m'a gardé en vie. Ça m'a permis de continuer. Comme si je savais que j'étais meilleure que toutes les autres. Je sortais jamais autrement qu'en robe. Pas question. J'avais toujours belle allure, peu importe à quel point tout allait mal. Mes robes étaient juste tellement colorées et pleines de vie. Miss Reginald, une styliste de la même house que moi, me les faisait pour les balls et je les portais dans la rue quand je travaillais. Je prenais beaucoup de place, peu importe qui m'accompagnait, j'étais tout. Ça se voyait dans mes robes, à la façon dont je bougeais, dont je parlais. Les gens me disent que j'étais tellement prétentieuse, mais c'est pour ça qu'on m'aimait. Maintenant, j'ai un peu plus les pieds sur terre, je suis moins auto-centrée. Cela dit, les choses sont beaucoup plus faciles aujourd'hui, donc je n'ai plus besoin de toute la confiance que j'avais à l'époque, peu importe ce qui a pu se produire. Je n'ai pas besoin d'en imposer pour empêcher quelqu'un de me tuer dans la rue, trouver de la nourriture à mettre sur la table, ou pour savoir que quelqu'un sera là pour prendre soin de moi quand j'en aurai besoin. Quelque part sur le chemin, j'ai un peu appris à écouter, à ne pas avoir besoin de tout ça pour avoir quelque chose à dire.
Parlez-moi de la fin.
C'est pas quelque chose dont j'aime parler. Je ne savais presque rien de ce qui se passait dans le monde à l'époque. J'étais complètement paumée. Il y avait la guerre, je sais, elle durait depuis toujours. Les hommes qui travaillaient au marché vieillissaient parce que tous les jeunes avaient été envoyés en Iran. Et puis à un moment, je sais pas en quelle année, tout s'est effondré. Tout le monde avait la même toux cette année-là et aucune des filles n'arrivait à travailler parce que tout le monde avait tellement peur de l'attraper. Tout le reste a commencé à tomber en morceaux. On pouvait plus rien acheter. Tous les magasins accessibles à pied étaient vides. Les métros, les bus, tout était fermé. On pouvait acheter cut. Les épiceries étaient toutes dévalisées.
Cut ?
Je veux dire rien du tout. Il y avait rien à acheter, quoi. Des clous, ma cache.
Comme que dalle ?
Ouais, un truc dans le genre. Donc, les magasins étaient vides. Le marché tournait encore. Des camions y passaient toute la journée et toute la nuit pour décharger les primeurs. Et puis tout était envoyé à Manhattan. Ils envoyaient des convois armés. C'était la police de New York, mais... qui était là que pour protéger les camions. Mais il n'y avait rien à manger ici, juste le riz brun à la con que les punks servaient sous la bunker. Cette merde ne suffisait pas pour vivre. C'était comme ça partout, autant que je sache. Tout le monde était tellement furax, à l'été 50, il y avait des affrontements avec les flics toutes les nuits. Longtemps avant, il y avait une émeute à Chelsea quand j'y étais arrivée. On avait brûlé une camionnette de police et tabassé quelques cadets. À ce moment-là, c'était comme ça tous les soirs. Au début, on se révoltait seulement quand ils tuaient quelqu'un, mais à un moment, ça a gagné en vitesse et on a senti qu'il fallait qu'on gagne, d'une façon ou une autre, qu'on pouvait plus revenir en arrière. Certains soirs, j'étais trop déchirée, d'autres soirs, j'étais occupée à travailler ou alors j'avais trop faim, mais la plupart du temps, quand j'étais dehors, je tombais sur des gosses et la police qui s'étripait. Il y avait des nuits où tout le monde était dehors, même Mémé était sortie un soir et elle avait raconté qu'elle avait craché sur un flic. Pendant un moment, il y a eu des émeutes dans toute la ville. Puis l'armée a tout maté. Ils ont installé des grandes cantines où ils nous donnaient de la bouffe merdique, de la pâtée de protéines. Pff, mon Dieu, qu'est-ce que je détestais cette pâtée de protéines. Je faisais pas mal de passes avec des types qui travaillaient au marché. Je les faisais payer en nature, en viande ou en pommes de terre. Certains jours, j'avais rien, mais j'amenais souvent un peu à manger à Mumé, à Miss Reginald, avec ce qui je vivais. Elle était trop malade pour travailler, alors je faisais de mon mieux. Dieu merci, j'étais sobre à cette époque, parce que je m'en serais pas sortie si j'avais eu à dénicher de la drogue. Je faisais un peu de bénévolat dans cette clinique d'échange de seringues qu'on avait installée dans le Point, et ça m'a aidé à me sevrer. La faim, c'est vraiment dur. Je veux dire, ça faisait mal, vraiment mal. J'avais la tête qui tournait pendant des jours, tout le monde tombait malade à cause du manque de nourriture. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais je n'avais jamais rien vécu comme la famille. Mais on commençait à prendre soin les unes des autres. Partout, on commençait à faire attention.
Et à quel moment l'armée a-t-elle pris le contrôle du Bronx ?
Je sais pas. Je me souviens pas exactement quand c'est arrivé. Il faisait un putain de froid et servait la pâte de protéines froides. Je me souviens de tout ça. Mon Dieu, c'était vraiment de la merde. T'as déjà mangé de ce truc ?
Oui, j'étais dans le camp de Rice avant d'aller dans le sud.
Tu t'es battu en Alabama ?
Non, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour aider. J'ai surtout passé du temps dans le delta du Mississippi après qu'ils ont détruit Jackson, avant que les choses ne deviennent intéressante ici. Vous avez eu quelque chose à voir avec ça?
Oui, je suppose qu'on peut dire ça. Tu sais flatter une demoiselle.
Pouvez-vous nous en dire davantage à propos de la prise de drogue et de l'addiction et de votre processus de guérison qui a mené à cette période?
C'est une chouette question. Je pourrais, mais je ne pense pas. Je vais plutôt vous raconter le marché. Laissez-moi vous parler de la nuit où on a pris le marché. J'oublierai jamais. C'était la chose la plus incroyable qu'aucune d'entre nous n'avait jamais vue. Je vous ai dit que le marché était resté actif pendant la famine. On voyait ces camions qui rentraient et sortaient. Quand les émeutes ont commencé, la police a installé d'énormes barricades tout autour du marché. Des murs de métal, 5 mètres de haut. Ils ont fortifié la Bronker, ils ont tout fermé. Il n'y a que les gens de Manhattan qui pouvaient l'utiliser ou bien les camions pleins de nourriture qui allaient en ville. Pendant un temps, quand on se battait contre l'armée, le marché est devenu le centre des émeutes. Parce que tout le monde savait qu'il y avait à manger à l'intérieur. On se battait le long des On Point Avenue. Une nuit, on a brûlé un tank. Beaucoup de gens ont été abattus, beaucoup de filles aussi.
Vous me racontiez les événements qui ont mené à l'insurrection.
Ah oui, c'est vrai. On s'est battu de toutes nos forces. Les filles, je veux dire, avec tout le monde, alors que la faim continuait et que l'armée nous traitait mal. Et puis, en 52, l'armée s'est presque entièrement retirée. La prise du marché a eu lieu au début du mois de mai, vers cette année-là. Je suppose que l'armée devait aller dans le sud ou vers l'est, parce que, de ce que j'entendais, les combats démarraient vraiment. La police était toujours là, à défendre le marché, mais il y avait des fusillades entre elles et les gangs partout dans le Bronx. Alors les flics étaient carrément tendus. Les gangs n'étaient pas très actifs au Point. Les filles ne s'entendaient pas bien avec eux et à ce moment, on était plutôt bien organisés. Alors il n'y avait pas beaucoup de police dans le coin, pas assez en tout cas. Dans les combats, les gens ont commencé à vouloir s'entendre les unes les autres comme tout le monde n'était plus si méchant tout le temps. Quelques gangs ont commencé à être plus respectueux envers les filles. Je crois que la commune a vraiment démarré là en un sens, quand on s'est battu dans la rue les unes à côté des autres. Il a fait chaud cette année-là, au milieu du mois d'avril, c'était juste brutal. Plus de 90 la nuit, 30-35 je veux dire, on utilisait les Fahrenheit à cette époque. Il faisait chaud, il y avait peut-être 20 cadets au total pour garder le marché, et cette nuit-là, tout le monde était dehors. L'armée était partie, on trouvait même plus leur foutu pâté. Les punks étaient toujours là avec leurs ribrins, mais les gens avaient fini par les détester à cause de lui. Il faisait tellement chaud, je suais tellement dans cette robe, cette chose magnifique avec des paillettes qui reflétaient la lumière des lampadaires. Beaucoup, beaucoup de gens, quelques milliers. Il y avait ces grands feux dans les rues. Pourquoi est-ce qu'on allumait des feux alors qu'il faisait déjà si chaud? Je sais pas, mais on avait ces grands feux de joie et quelques gosses avaient construit une catapulte et envoyé des poubelles enflammées par-dessus le mur. Et puis, quelqu'un a pris un semi, ce camion énorme, et a foncé dans la barricade. Et le mur est tombé. On a envahi ce foutu marché. On a mis leur compte à ces putains de porcs et aux troupes privées que le marché avait engagées. On a brûlé leurs bureaux. La plupart des gens se sont tirés avec toute la nourriture qu'elles pouvaient trouver. Beaucoup de gens n'avaient pas vu un légume vert depuis des années ou de la viande. Et tout était là, étal après étal, rempli de la meilleure nourriture qu'on pouvait imaginer. J'ai demandé à ma copine Cindy d'apporter des crevettes à Miss Reggie parce que je savais à quel point ma Reggie avait vu les crevettes. Alors tous ces gens étaient partout dans le marché et puis on est restés. On a tenu le marché. Quelques flics sont venus le matin, on a utilisé les catapultes pour balancer les poubelles enflammées sur leur voiture. Ensuite, on a pris la Bronker et on a tout barricadé. Le matin, on était peut-être quelques centaines et puis quelques centaines de plus sont venus dans la semaine alors qu'on dépattait de ce qu'il fallait faire. Quand je me souviens de cette nuit-là, je vois les poubelles en feu voler dans les airs et tout le monde applaudir et courir par-dessus les débris quand le marché est tombé.
Ça avait l'air incroyable.
Oh, ma fille, ça l'était, c'était tellement beau.
Et ça a été un point de basculement pour tout le reste?
Oui, à ce qu'on m'a dit, la naissance de la Commune de New York, la nuit où tout s'est ouvert, la bataille de Hunts Point.
Nous approcherons de son 15e anniversaire.
Oui, et je dois prendre la parole. Et elles en font toute une histoire. Bon, j'ai déjà choisi ma robe.
Vous dites qu'elles ont fait tout ça. Qui sont elles?
Oh, je suppose que je dois m'inclure dedans aussi. J'ai beaucoup débattu et j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'était difficile pour moi de voir ça comme quelque chose dont je faisais partie aussi. Je n'avais jamais rien fait de pareil. Aucune d'entre nous, je suppose. J'ai tout le vocabulaire politique pour comprendre l'insurrection maintenant, pour parler de communisation et tout ça. Je devais commencer à voir ce qu'on faisait au marché comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Mais dans les semaines qui ont suivi la prise, je me suis concentrée sur ce que je faisais le mieux, prendre soin des gens. À peu près 500 personnes sont venues vivre dans le marché, travailler dans la distribution de nourriture. Je m'assurais qu'on s'occupait de tout le monde quand elles étaient malades, qu'elles avaient des amis, une chérie ou du sexe qui leur allait, qu'elles avaient la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et d'aider. Les filles et moi, on a pris la responsabilité de s'occuper de tout le monde. On a mis en place un centre de sevrage, une cantine, une clinique et même une école. Ça a fini par être une responsabilité partagée, mais pendant les premières années, on a décidé que ce serait notre travail de faire en sorte que toutes celles qui venaient nous trouver avaient tout ce dont elles avaient besoin. Ça a été une source d'inspiration pour beaucoup de gens qui cherchaient à repenser leur mode de vie. J'ai trouvé mon rôle ici au début et je me suis concentrée là-dessus pour pas être submergée par tout le reste. Mon rôle, c'était de m'assurer qu'on s'occupait de celles qui venaient travailler ou vivre ici.
Qu'est-ce que la commune signifie pour vous?
Ça veut dire qu'on prend soin les unes des autres. Ça veut dire tout pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a foutument communisé cet endroit. Ça veut dire qu'on a pris quelque chose qui était de la propriété et qu'on en a fait de la vie.
Il y a la commune où vous vivez, mais aussi la commune de toute la région.
Oui, j'ai commencé à m'en rendre compte quand nous avons décidé de nous assurer que tout le monde avait à manger. Tout était lié. Que les filles et moi, on pouvait aider à prendre soin de celles qui trimballaient la nourriture dedans et dehors, qu'elles pouvaient s'occuper du quartier et que le quartier pouvait prendre soin de la ville, et la ville de toute la région. Et puis la région, on pouvait prendre soin de toutes. C'est toute une commune. C'est tout pour tout le monde. Ça a demandé beaucoup de combats et beaucoup de morts, et chaque jour ça paraissait impossible, mais on a réussi. Je sais pas comment, mais on a réussi. Je ne suis peut-être plus aussi jolie qu'avant, mais bon, c'est pas grave, je suis fière. Pas fière de la même façon qu'avant, mais fière de nous.
Comment avez-vous fini par essayer de distribuer la nourriture?
On a nourri la révolution, tu peux être sûre de ça. Yel, je veux dire on... a vite compris que la meilleure façon de distribuer à manger n'étant pas en passant par des familles ou des magasins, mais à travers de grosses organisations de résidences, d'immeubles, de pâtés de maison ou de quartiers entiers. Alors que les gens repoussaient l'armée et les forces de police, qu'elles se battaient quartier par quartier, de plus en plus de gens ont commencé à vivre comme on faisait à Hunts Point. Les gens avaient toujours des familles, j'imagine, des gens avec qui elles partageaient un appartement, ou avec qui elles élevaient un enfant, ou avec qui elles couchaient. Mais on s'occupait de tout pour le bloc entier, avec des assemblées, pour essayer d'améliorer les endroits où ça coinçait. Alors si tu t'entendais plus avec quelqu'un, tu pouvais simplement déménager dans un autre appartement de l'immeuble, et c'était pas très important, on s'occupait de toi. On distribuait la nourriture à travers ces communes ou dans des cantines de quartier, et ça a été un grand soutien pour les gens qui découvraient de nouvelles manières de vivre. Et avec un endroit correct où vivre et manger, les gens sont devenus de plus en plus audacieuses quand ils se battaient dans les rues. Pendant quelques années, à travers le Queens, Manhattan, le Bronx, un bout du New Jersey, autour de Fort Lee, Cliffside Park, Edgewater, un morceau de Mount Vernon et de New Rochelle, toutes celles qui se battaient vraiment mangeaient dans une cantine ravitaillée par le marché de Hunts Point.
Vous vous occupiez vraiment de tout le monde? Qu'est-il arrivé aux propriétaires, aux anciens flics, aux saletés de patrons?
Sûr, qu'on n'avait pas peur d'affamer quelqu'un ou de prendre d'autres décisions plus sanglantes et plus difficiles, alors non, pas de patron, pas de flics. Aucun d'entre eux ne pouvait venir s'ils s'accrochaient à leurs vieilles idées. Mais s'ils donnaient ce qu'ils avaient, s'ils quittaient leurs anciens jobs et venaient vers nous sans propriété ni pouvoir, C'est une expression que j'ai apprise à l'époque. Je me souviens que les gens disaient ça, sans propriété ni pouvoir. Alors, pourquoi pas? On était heureuses de les nourrir, comme n'importe qui d'autre. On les gardait à l'œil, par contre, pour s'assurer qu'ils ne tentaient rien de bizarre. Généralement, c'était les quartiers qui s'occupaient de ça. Nous, on s'occupait du Bronx, et on s'assurait que ces types-là n'envoyaient pas à manger à d'autres propriétaires.
Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez partager?
Quelque part, à l'intérieur, je suis toujours la fille que j'étais quand je suis revenue de Chelsea pour la première fois. Je veux que tout le monde m'aime, que tout le monde me voit comme je suis belle. Je l'aime pas beaucoup ces jours-ci, mais je ne veux pas être oubliée. Tellement de filles sont mortes et on n'est pas nombreuses à se souvenir d'elles. Je veux que les gens se souviennent de moi. C'est idiot à dire et à m'entendre dire, mais c'est toujours comme ça que je me sens.
Je pense que les gens vont se souvenir de vous, Miss Kelly.
Ah, merci ma chérie, t'es un amour. Merci d'avoir enregistré ça.
Merci à vous, Miss Kelly.
pronto, hermanos. Estamos pendientes.
Merci Cesse pour ce PAD. Tout de suite, on écoute « Le monde s'est dédoublé » de Clara Isé.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, et t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps en se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
C'était Le Monde s'est dédoublé de Clara Isé. Alors on va revenir un petit peu sur ta chronique, Cess. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous partager cet extrait ?
Alors quand Sad m'a permis de lire ce premier chapitre, qui est bien plus dense que les extraits que j'ai choisis pour un peu centraliser sur une thématique, parce que quand j'ai fait ce travail-là, aidé par quelqu'un que je remercierai tout à l'heure, j'étais vraiment dans l'optique de l'émission, elle va être diffusée sur l'autre dans l'entre-nos-tours. Et je trouvais que c'était un texte qui pouvait résonner à plein d'égards, de plein de manières, et qui, contrairement à l'émission qu'on a fait il y a deux semaines, donc avant le premier tour des élections, j'avais le sentiment que ça pouvait apporter des perspectives nouvelles, en fait. Peut-être de se projeter dans des perspectives de futur désirables, ce dont on a peut-être besoin là maintenant aujourd'hui pour se remobiliser et retourner aux urnes, et ailleurs plus tard, parce que ça ne va pas s'arrêter aux urnes, bien sûr. Et tant qu'on est sur le choix du texte, j'avais envie de parler un petit peu sur des choix aussi que j'ai dû faire sur le travail de mise en voix. Donc je vous ai déjà un petit peu parlé des choix que j'ai pu faire, encore une fois aidé d'Antoine Lyon, que je remercierai à la fin, je vais y arriver. Mais je voulais aussi parler un petit peu du travail sonore que j'ai pu faire. Je voulais préciser à l'antenne que les sons de lutte, d'émeute, d'insurrection qu'on entend pour illustrer l'insurrection de Hunpoint, c'est pas des sons fictionnels, ce sont des archives sonores qui viennent d'un son produit par Anaïs Deneau et aussi grâce à la radio Klaxon, qui ont créé en fait une archive sonore de la ZAD de Nantes. Donc c'est un son qui s'appelle la ZAD attaquée et qui est disponible sur le site Le Brutagène, que vous trouverez bien évidemment en description du podcast sur le site de Scilab, c-lab.fr. Et ça me semblait particulièrement intéressant de travailler sur le travail qu'ont fait les autrices, de mettre en écho une réalité très actuelle avec une projection fictionnelle. Et voilà, je voulais mettre cette transposition-là en son, en fait.
Moi, ce que je trouve assez fort, justement, c'est... Alors, je pense que ça vient... et du roman et de l'extrait que tu as choisi, mais aussi de la mise en son, la mise en voix que tu en as faite, c'est qu'on sent tout de suite qu'on est dans une sorte de dystopie et en même temps, on a l'impression d'être dans un espèce de réalisme un peu effrayant. Et aussi, on se demande si on n'est pas au XXe siècle pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste après. Et je trouve ça assez fort. Je pense que tes choix... qui sont quand même, du coup, pour nous, très contemporains dans les sons, ça a permis ça, en fait, de vraiment d'être en même temps dans une réalité... enfin, vraiment, on est les deux pieds dedans. Et en même temps, on ne sait pas trop si c'est avant, après. C'est chouette.
C'est marrant que tu parles de dystopie, parce que c'est vraiment un terme sur lequel je n'ai pas réussi à me décider pour qualifier ce texte. Je ne sais pas si on est dans la dystopie ou dans l'utopie, parce qu'en soi, c'est bon, le combat il a été gagné. Elles ont construit cette commune, elles ont réussi à chasser les patrons et les flics. Elles ont réussi à reprendre la mainmise sur la nourriture, à remettre le soin au cœur du sujet, etc. Mais bon, comme j'ai pu le dire dans l'introduction de l'ouvrage... ça s'est pas fait sans conséquences, ça s'est pas fait sans dommages. Parmi les extraits que j'ai coupés, il y a plein de moments où en fait elle parle du travail de mémoire qu'elle doit porter, où elle est pas forcément à l'aise avec le rôle qu'elle se retrouve à devoir prendre. Elle parle du rapport qu'elle a avec l'héroïsme, par exemple. Mais de fait, c'est elle qui est restée en vie, en fait. Donc ce rôle lui échoue.
Peut-être roman d'anticipation.
Peut-être que c'est ça le terme
que je cherchais plus exact.
Et justement, tu parles des choix que tu as faits et du soin qui est remis au cœur des sujets. Donc nous, en studio, on a pu avoir le texte dans sa globalité avec tous les extraits. Et justement, il parle beaucoup du travail tactile. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces passages ?
Alors, les tactiles, ce sont en fait les personnes qui, on pourrait, de façon plus contemporaine, dans notre réalité à nous, appeler les travailleuses du sexe. Et en fait, si le terme a changé, c'est pour marquer également une évolution dans la façon d'appréhender le métier et les personnes qui l'exercent. Donc on est plus centré sur le sexe en lui-même, mais sur le contact, la relation que ça crée. Et il y a toute une philosophie qui est repensée où ça fait partie d'une question de l'historienne justement sur les tactiles, etc. Sur en fait le fait qu'elles aient repensé le soin, le care, etc., comme faisant partie de leur pratique. Elle parle un petit peu de ça quand elle dit qu'elle prend soin des autres en s'assurant qu'ils aient à manger, mais aussi qu'ils aient un chéri, à aimer, à sexer, etc. Et c'est vraiment une façon de repenser, du coup, le rapport au sexe et au travail du sexe. C'est un peu une façon, en fait, de le sortir de la consommation, du capitalisme. On n'est plus sur « je consomme le corps de quelqu'un », on est sur une personne qui va apporter un acte de service, de soin, qui peut passer, du coup, par une relation sexuelle, mais qui, du coup, est plus large et plus humaine, en fait.
Oui, donc c'est vrai que ça élargit complètement la notion...
C'est ça, ça change le statut aussi des personnes qui le pratiquent, du coup.
Oui, puis la vision qu'on peut leur porter aussi dans le même temps, quoi.
Et il y a tout un volet, notamment, elle parle en fait de ce repenser thérapeutique au sens où il y a des personnes qui se voient privées, isolées, etc. de ces relations sexuelles-là. Et du coup, d'avoir une personne dont c'est la fonction permet un peu de rétablir des équilibres et de permettre à chacun et chacune de bénéficier de ces services-là, sans que ça soit forcément de la relation monétaire ou autre. Parce que ça, il n'en est pas trop question... dans le livre, une fois que l'insurrection s'est passée.
Et moi, ce que je trouve intéressant, du coup, dans nos choix à toutes les deux, sans qu'on s'en soit parlé avant, c'est que finalement, entre un homme du début du XXe siècle et je ne sais pas quel âge ont les autrices, mais on sent qu'elles sont bien dans leur génération du XXIe siècle, on va dire. Et ben finalement, on a une cohérence et on a un fil conducteur. Ce qu'on disait tout à l'heure, là on en a parlé un petit peu en studio toutes les trois, le tout pour tout le monde, le prendre soin des autres, l'intérêt général avant l'intérêt particulier, plus de patrons, plus de flics, alors je pense qu'il ne va pas jusque là, Essel, mais il y a quand même une dimension capitaliste, anticapitaliste chez lui malgré tout.
Oui, puis le flic là, dans cette histoire-là, il a un rôle particulier, c'est pas juste le gardien de la loi,
oui.
C'est l'homme qui est là pour protéger les puissants, c'est l'homme qui est là pour contrôler les minorités, donc c'est aussi une certaine figure de flic en fait.
Et voilà, je trouve que c'est drôle comme... Il y a quand même un lien qui est assez évident. Quoi. Là, j'ai réécouté l'extrait en voix et en son et ça m'a un peu frappée. Alors à part ce qu'on disait avec Clara sur l'histoire qui manque, que dans ton roman à toi que tu as choisi, il y a la part féministe que n'a pas Essel qui vit. Et effectivement, lui, il est du 20e. Quoi.
Non, puis c'est des sujets qui, a priori, sont loin de lui par rapport à la biographie que tu nous as faite. Je ne pense pas qu'il ait des personnes queer, TDS, etc., dans son entourage qui étaient chères à son cœur. Là où je rappelle que, par exemple, Michelle Esther O'Brien, elle a travaillé sur l'histoire trans de New York. Mm. Donc forcément, c'est un sujet qui lui parle le plus. Pareil pour Eman... Abdelhadi, qui se présente comme femme musulmane, travaillant sur les questions de religion, de genre, etc. Donc forcément, c'est plus normal, je dirais, que cette dimension soit présente dans le récit qu'elle propose. Mais pour autant, ça ne leur empêche pas de répondre un peu à ce que appelait Essel de ses voeux, d'avoir voilà, cette société en rupture complète avec le modèle individualiste, capitaliste, patronal, etc. Quoi.
C'est ça. Et qu'il y a quand même cette idée de l'humain avant tout, finalement.
En tout cas, ça, c'était le portrait de Kelly. Il y a 11 autres portraits à découvrir, donc j'espère que cette mise en voie vous donnera envie de vous ruer sur ce livre aux éditions Argile, éditions Rennaise. Donc défendez le patrimoine tant qu'il y en a.
Merci beaucoup, Cess. Et tout de suite, on va écouter Bâtard de Stromae. On se retrouve juste après sur J'irai cracher sur vos ondes.
J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. Mais t'es de droite ou t'es de gauche, t'es beauf ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris, cultrice ou pathéticienne, féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuche ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout tout de suite, du tout au tout, indécis, hein, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout tout si, flamand ou allon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? L'autre, bâtard, tu es, tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti, monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça, d'ailleurs tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal, les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde, monsieur c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille, pour être bien vu partout, hein. Le bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes. Je suis, j'étais, et resterai moi, Dylan, 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 je suis, j
l'un ni l'autre. Bâtard, tu es. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre. Bâtard, tu es. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, je suis.
C'était Bâtard de Stromae, vous êtes toujours sur Syllab dans J'irai cracher sur vos ondes. Alors, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le choix de cette musique ?
Tout à fait, puisque je l'ai réclamée à corps et à cri. Alors, Bâtard Stromae, je ne la connaissais pas vraiment, cette chanson de cet artiste, et je l'ai écoutée pour la première fois vendredi soir dernier. Je me suis rendue à Nantes, en fait, pour retrouver mes amis qui ont prêté leur voix à cette lecture de Tout pour tout le monde. Et bah, comme on avait un peu de temps devant nous, la veille, on est sortis, on allait voir une viewing party de Drag Race France saison 3, qui était du coup hostée, gérée, on va dire animée par une drag queen nantaise qui s'appelle La Baronne. Et une fois l'épisode diffusé, les réactions partagées, etc., on avait un moment de performance des artistes. Et du coup, La Baronne, elle, s'est avancée en disant « Bah voilà, moi je fais pas des prestations, des performances politiques habituellement. Moi, j'étais apolitique. » Oui, de la salle. Quel encourage d'ailleurs. Elle fait oui, grave, vous avez raison, parce que la politique, si tu t'occupes pas d'elle, t'inquiète, elle s'occupe de toi. Et du coup, elle voulait parler de son apolitisme, de l'abstentionnisme, et elle a performé sur cette chanson, du coup, de Stromae, pour parler de cela. Et c'était vraiment un moment très fort. La salle était en folie, puis après ça, la soirée a vrillé en mode aller aux urnes, voter, barrage au Rassemblement National, parce que, bah, typiquement, les drag queens vont faire partie des premières personnes à plus pouvoir exercer leur métier, voire même avoir leurs identités en dehors de leur activité menacée, si ces élus-là, ces partis-là, se retrouvent en main du pouvoir. Donc ça me semblait intéressant, du coup, de faire revivre ce moment, qui était, ma foi, génial. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous dire deux mots de ces personnes sur Nantes que je suis allée rencontrer, donc... Avant ça, déjà, merci à Céd de m'avoir permis de découvrir ce texte.
Hello, petit ajout en post-production pour les gens qui écoutent le podcast. Donc je remercie très chaleureusement... Mon chat veut pas que je remercie les gens. Je remercie très chaleureusement Eric et Valentin pour avoir bien voulu participer à cette session d'enregistrement. C'était un super chouette moment avec vous et puis la lecture, elle est vraiment top, donc merci beaucoup. Je remercie également Don de Lyon qui m'a donné de son temps pour m'aider à sélectionner les extraits du chapitre que vous avez entendu ce soir, à faire la petite direction artistique et tout, c'était hyper aidant. Et en plus, si on n'avait pas fait ça dans son salon avec de la musique de fond d'Anathema, vous avez entendu ce soir, et ben vous n'auriez pas eu une bande son aussi cool pour nier cette mise en voix. Donc Cimère Don de Lyon, et allez donc voir son travail sur le WordPress Le Temps des Cerises. Vous aurez la joie de découvrir ces textes poétiques, introspectifs et libres. Et puis bah aussi, du coup, allez voir le travail de Valentin et Eric, qui sont des gens très chouettes, qui font des trucs très chouettes. Donc concernant Valentin, vous pourrez retrouver son travail musical sur les réseaux sous le nom de Placine, Placines. Donc il y a des choses en plus assez cool qui ont l'air de se profiler là pour la fin du mois. Donc si vous aimez la musique, que je ne saurais pas définir parce que c'est pas mon truc la musique, enfin j'en écoute mais je sais pas en parler, bref, allez checker ça, voilà, faites-moi confiance au bout d'un moment. Et concernant Eric, E-R-Y-K, vous pourrez taper ça dans votre barre de recherche YouTube pour tomber sur sa chaîne, où vous aurez plein de choses, tout ce que fabrique Eric, que ce soit des réflexions linguistiques sur telle ou telle traduction, ou si on peut vraiment légitimer le fait qu'on interdise des laits végétaux de s'appeler lait. Et il y a aussi d'autres trucs cool comme du bricolage de carnet maison à journal de vlog menstruel. Plein de choses chouettes qui, je pense, si vous aimez J'irai cracher, devront vous parler. Hein, je pense, on n'est pas sur le même projet, mais on est sur des valeurs similaires quand même. Donc c'est la fin de la joue en post-prod. Je vous laisse reprendre le fil de cette émission qui, de toute façon, touche bientôt à sa fin. Gros bisous.
Et vous aurez, bien entendu, les liens en description du podcast.
Cette émission touche donc à sa fin. Un grand merci à Eva qui est avec moi en studio.
Bah, merci à vous de m'avoir réinvité. Ça a été un grand plaisir. J'adore.
Quand tu veux.
Un plaisir pour toute l'équipe également. Un grand merci également à Cesse pour la technique ce soir et pour ses magnifiques chroniques.
Merci.
De rien.
Et de notre côté, on se retrouve donc le 17 juillet à 19h pour la suite de J'irai cracher sur vos ondes. Et on risque de parler du travail de Dan DeLion dont vous avez entendu parler ce soir. Restez avec nous, tout de suite, Sémaphore nous embarque dans une sélection rap français dont Dan vous parlera dans un instant sur Syllab. Bonne écoute et bonne soirée à tous.
Ciao, ciao.
Salut.